Bienvenue sur le podcast de la psychonutrition, le rendez-vous de la santé holistique. Je suis Claire Pensée, diététicienne nutritionniste, professeure de yoga et créatrice de contenus digitaux. Dans ce podcast, seule ou en compagnie d'experts dans leur domaine, je vous transmets des clés de santé accessibles et concrètes pour vous sentir sereine et alignée au quotidien. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais aussi à lui donner un avis et 5 étoiles afin de soutenir mon travail pour l'aider à perdurer. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview et pas des moindres puisque la personne que j'invite sur le podcast dans cet épisode est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui m'inspire particulièrement et qui partage énormément de bonnes ondes qui font du bien. Donc c'est vraiment un bonheur pour moi d'échanger avec elle à travers cet épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Luna Josephine, professeure de yoga et fondatrice du mouvement Body Poetry. Elle a créé son studio de yoga en ligne, alliant cours dynamiques et séances plus douces, mais aussi des séries de méditation, d'exercices de respiration et de pratiques somatiques dont elle nous parlera au fil de l'épisode. J'ai découvert Luna sur Instagram et son compte a tout de suite été une révélation pour moi. J'adore ce qu'elle incarne et la philosophie qu'elle transmet au travers du mouvement qui est tout à fait à l'image de ce que je souhaite proposer, donc forcément ça a résonné en moi. Au fil de notre échange, Luna nous raconte son histoire et nous parle notamment de sa transition de la danse de ballet au yoga. Elle nous explique en quoi elle considère cette pratique comme thérapeutique et comment le yoga l'a aidée à se reconnecter à son corps. Elle nous dévoile son rapport à la féminité, sa relation à l'alimentation et nous donne même ses conseils pour se sentir mieux dans son corps au quotidien à la fin de l'épisode. J'ai été très heureuse de pouvoir m'entretenir avec Luna aujourd'hui. Vous vous doutez bien que ces mots ont fortement résonné en moi et j'espère que notre conversation vous inspirera autant qu'elle a été inspirante pour moi. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Luna, je te souhaite la bienvenue dans ce podcast. Je suis vraiment ravie et honorée de t'accueillir ici pour échanger avec toi. Comment tu vas ?
Merci beaucoup déjà de m'inviter sur ce podcast. Je vais très bien. Je suis au Guatemala, donc tout va bien.
Eh bien, écoute, la première question que j'ai l'habitude de poser à mes invités, c'est tout simplement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es et puis ce que tu fais dans la vie ?
Je suis professeure de yoga. C'est un peu bizarre. J'ai souvent du mal à répondre à cette question parce que j'ai l'impression de faire tellement de choses que juste avoir une étiquette, c'est assez difficile. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de récurrent. On est un peu tous dans le même dans le même bateau. Donc, je dirais qu'en général, je suis professeure de yoga, de mouvement aussi, embodied movement. Et tellement, tellement plus, il y a aussi danse, on en parlera. Mais je partage voilà, cette pratique. J'organise aussi des cercles de femmes. Je travaille beaucoup autour du féminin sacré, autour de la femme en général d'ailleurs, et de l'utérus aussi. Et puis j'offre des retraites, etc. Il y a plein de choses que je fais à travers cette étiquette ou ce métier de professeur de yoga, voilà, c'est un peu large.
Ouais, mais je pense que, comme tu dis, on est tous un peu confrontés à ça, et on n'a pas envie de se mettre dans des cases, et en fait, ce terme, il est tellement large, et il y a tellement de manières d'enseigner le yoga, que c'est difficile des fois de se restreindre à ce terme. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de la manière dont toi, tu l'enseignes et ce que tu incarnes dans le yoga. Mais avant ça, avant d'entrer dans le monde du yoga, tu étais danseuse classique, danseuse de ballet. C'était quoi ton quotidien à ce moment-là ? Comment tu te sentais dans cette carrière ?
Alors, c'était, je dirais, les montagnes russes. Comme d'ailleurs, c'est un peu la vie d'ailleurs, c'est toujours comme ça. Mais ça a été assez compliqué et en même temps ça m'a menée ici où je suis aujourd'hui et ça m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc oui, j'étais danseuse, enfin je suis toujours danseuse, mais c'était vraiment c'était ma carrière, c'était ce que je voulais faire, c'était ma vie, c'était toute ma vie, danser. Et la danse classique, comment était mon quotidien, c'était assez... je dirais presque strict, assez très disciplinée. J'étais très disciplinée avec la danse. C'était très presque répétitif sans l'être, et ça me donnait une certaine ça donne une certaine structure à ma vie, ce qui très vite et par la suite, j'ai réalisé qu'en fait, ce qui a créé aussi beaucoup de frustration en moi. Bien que c'est une discipline, la danse en général, donc pas forcément que la danse classique, mais c'est quelque chose qui quelque chose qui est très naturel chez moi. Ma grand-mère était danseuse, mon arrière-grand-mère était danseuse. C'est quelque chose que je pense que qui est juste qui fait partie aussi de mon histoire ancestrale, je dirais. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi d'autre partager avec ça, mais c'était toute ma vie. Je m'entraînais énormément, beaucoup beaucoup d'heures par semaine. Je crêpais mon sillon beaucoup trop de fois par semaine avec la laque et tout. Et j'avais une professeure qui était très extrêmement stricte également, et mais qui était une très très bonne prof, mais aussi je pense qu'elle a créé aussi certaines blessures sans blâmer qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais qui a créé aussi beaucoup de blessures en moi. Donc voilà, je commence un peu par là déjà parce que je pense que c'est assez important d'en parler tout de suite et de pas trop comme on dit en anglais, sugarcoat tout ce monde de la danse classique, même si c'est magique et si beau, et je sens qu'il y a aussi du changement et que même les danseuses commencent à changer et se mettre un peu plus à la spiritualité, etc. Mais c'est un monde très compliqué. Donc voilà, mais oui, c'était mon quotidien.
C'est vrai que la manière dont tu le décris, c'est un peu à l'image qu'on s'en fait. C'est vrai que la danse classique, alors oui, il y a ce côté très élégant, très beau à voir, mais ça retranscrit aussi beaucoup ce côté disciplinaire, très rigide en fait, de la danse, surtout dans le classique, j'avoue. Même si la danse en soi, c'est un vrai outil pour gagner en liberté dans son corps, je trouve que vraiment la danse classique est très connotée rigueur, discipline. Pourquoi toi, est-ce que tu as quitté ce milieu de la danse? C'est quoi ton rapport à la danse aujourd'hui?
Alors, j'ai quitté le milieu. Déjà, je me suis blessée, en fait, déjà, à ma jambe droite. Là, j'ai encore la blessure, j'ai encore une grosse cicatrice, elle est toujours là. Et déjà, ça a été une première étape. Ça a été un peu le premier, ok, je ne peux plus trop bouger. Pendant 6 mois, je ne pouvais plus vraiment danser. Donc, ça a été hyper challengeant de ne plus pouvoir pointer ou danser comme je pouvais avec ma jambe droite. Et j'ai eu cette première étape, et ensuite ça a été quand à 17 ans je devais choisir en fait ma prochaine étape, de d'où aller, tu sais, la dernière année de lycée, tu te demandes qu'est-ce que je vais faire, où je vais envoyer mes demandes, etc. Où est-ce que je vais appliquer, où est-ce que je vais étudier. Et là, ça a été vraiment un moment qui a un peu tout chamboulé, et où je me suis vraiment remise en question. Je me suis dit, qu'est-ce que vraiment mon cœur et même ma tête, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de... Comment j'ai envie de qu'est-ce que j'ai envie de partager? Et comment j'ai envie de partager? Est-ce que j'ai envie de partager cette relation intime que j'ai avec la danse? Est-ce que j'ai vraiment envie de partager? Est-ce que je me sens prête de partager ça avec beaucoup de gens? Et je faisais des compétitions et des spectacles et tout ça, etc., etc. Et en fait, le plus je vieillissais, le plus je me rendais, je reconnaissais en fait mes propres blessures. Et c'est là où j'ai commencé à réaliser. Je me suis dit, mais en fait, ce que je partage, c'est qu'une image. Quand je danse en spectacle, je me rends à des compétitions, c'est que de l'image. Et je dois être absolument parfaite. En fait, je me rendais compte à quel point je me blessais, mais tellement, intérieurement. Je me blessais tellement parce que je voulais atteindre cette perfection. Et donc, déjà, il y a eu cette première blessure, etc. Et ensuite, il y a eu cette remise en question de ce que je voulais faire, ce qui m'a finalement... C'est une autre histoire. Je pense que ça peut être une histoire pour un autre podcast, mais je suis allée vers le journalisme. Parce que j'adore écrire, donc j'ai toujours été très créative dans tout ce que je faisais. Pour moi, l'expression, c'est ce qui me permet de vivre. Et puis donc j'ai quitté ce milieu, même si danser me permet de me libérer et de m'aimer et d'aimer inconditionnellement, j'ai réalisé qu'il fallait que je laisse mes mouvements être une extension de mon cœur et de ma respiration. et que ça ne vienne pas de mes blessures intérieures. Et c'est là où je me suis vraiment, vraiment remise en question et je me suis dit, en fait, c'est pas vraiment ce que je veux partager. Il y a aussi une autre side story, c'est que donc ma mère, en fait, ma mère est très, très spirituelle. Ça fait très longtemps qu'elle est dans ce monde yogique. Il y a un moment où elle m'a dit, tu sais, je sais à quel point t'aimes danser, mais je pense qu'il y a un moment donné où il faut que t'apprennes à rester et sentir et juste rester et sentir et respirer. Et c'est quelque chose que j'évitais de faire énormément quand j'étais plus jeune. Et ce qui me permettait de... Ce qui me permettait de respirer, c'était de danser. Donc j'allais à la danse. Dès que ma mère me disait, non, viens à la méditation avec moi, je disais, non, je vais danser. Pour moi, aller au hatha yoga ou respirer, c'était un cauchemar pour moi. Un cauchemar. Et en fait, c'est quand je suis partie de la maison, et je suis partie faire mes études, et je suis partie faire mes études à Londres. Et je me suis dit, en fait, je crois que ma mère a raison. Il faut que je ressente. Je sente et que je ressente. Et il y a eu un gros déclic aussi, voilà, parce qu'à ce moment-là, ma mère est tombée malade et je me suis encore une fois remise en question. Donc ça a été un peu, c'est assez long comme processus, mais ça a été vraiment un voyage intérieur avant de quitter vraiment le milieu. Ça a été tout un processus. Et mon rapport à la danse aujourd'hui, c'est vraiment je l'utilise comme un moyen d'expression et de libération.
Ouais, ça résonne beaucoup en moi ce que tu dis, parce que, alors je danse aussi, mais pas du tout du classique, je suis plus dans les danses urbaines, mais je trouve que, en fait, la danse, comme tu dis, je le vois comme un outil d'expression, et le yoga, pour moi, c'est un outil d'introspection, en fait, et les deux sont hyper complémentaires, c'est vraiment le yin et le yang, quoi, et j'adore en tout cas ce que tu dis là. Tu pratiques encore la danse classique, ou du coup, maintenant, tu t'es... Plus à donner à d'autres types de danse?
Alors, je pratique toujours pour moi. Par exemple, mes échauffements sont très connectés à la danse classique. Donc, c'est toujours un peu les mêmes exercices. En revanche, et puis aussi dans mes cours de yoga, il y a beaucoup de petites inspirations de mes échauffements de danse classique. Mais sinon, je me suis vachement plus orientée vers le ballet contemporain. C'est ça qui me donne plus de joie et plus de liberté. Donc il y a toujours cette inspiration de danse classique, mais tout en intégrant le côté contemporain que j'adore, que j'aime beaucoup. Et que je fais aussi, que je pratique depuis que je suis petite, mais je ne le faisais pas professionnellement. Enfin, c'était pour m'amuser d'ailleurs que quelque chose de plus sérieux. J'avais commencé avec le jazz en fait quand j'étais très jeune. Et ensuite le contemporain qui arrive après.
Et dans tout ça, comment est-ce que tu as découvert le yoga?
C'est un peu ce que je disais à un moment donné par ma mère, que je prenais pas trop au sérieux à la base. Surtout quand t'es ado, tu sais, tu te dis non mais en fait respirer là je peux pas.
Je comprends, ça nous semble totalement inutile.
Complètement. Et c'est surtout que pour moi c'était aussi la lenteur de ralentir, c'était tellement difficile pour moi. J'ai toujours eu besoin de... Tu vois, je courais aussi beaucoup quand j'étais ado. J'ai toujours eu ce... Et ce qui est assez ironique, parce qu'en fait, c'était de m'échapper. J'avais besoin de m'échapper. Parce que sentir, ressentir, c'était une horreur. Donc voilà, le processus a commencé avec ma mère, vraiment. Et ensuite, quand mon propre voyage a vraiment commencé, là, je me suis dit, ok, là, je le fais pour moi. C'était de comprendre et ce qui est... vachement connecté à d'ailleurs ton podcast et tout ce que tu fais et même cet épisode, c'est de comprendre en fait mon corps. En fait, c'est au moment où je me dis, mais en fait, j'ai envie de comprendre comment est-ce qu'on développe, comment est-ce qu'on arrive à développer un cancer en soi. Comment est-ce que c'est possible? Tu vois, c'était vraiment par curiosité. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Comment on en arrive là? Comment est-ce qu'on crée cette espèce de nuage noir en soi qui forme une maladie, qui forme un cancer? Comment est-ce que c'est possible? Je me dis, c'est... Donc, il y a des problèmes génétiques, il y a plein de choses qui peuvent être considérées, mais il y a aussi tout ce côté émotionnel et le corps émotionnel, le corps subtil. Et c'est là où je me suis dit, ok, j'ai envie d'en apprendre plus. Donc, c'était vraiment ma soif, en fait, d'apprendre qui m'a fait plonger dans le côté beaucoup plus spirituel et la philosophie du yoga. Donc moi, à l'inverse de beaucoup de gens, Ce qui m'intéressait tout de suite dans le yoga, c'était le côté spirituel. Et en fait, j'ai commencé tout de suite avec le Ashtanga et le Hatha, donc les deux disciplines hyper strictes. Donc ça, c'était le schéma répétitif, tu vois, le schéma qui s'est répété de la danse classique à revenir à continuer une pratique qui était très rigide. Donc, tu vois, me lever à 5 heures, aller au Ashtanga, genre hyper Même si je suis hyper reconnaissante du Ashtanga, et j'aime toujours le Ashtanga, je pratique beaucoup moins le Ashtanga. Mais c'est dans mon cœur parce que c'est la pratique qui m'a permis en fait de comprendre tellement plus sur la philosophie et les sutras de Patanjali, toute la philosophie yogique et la façon de vivre en fait yogique. Et ce qui moi en fait m'a intéressé beaucoup plus. Et j'ai aussi un passé, donc j'ai ma famille est bouddhiste, j'ai pas mal de membres de ma famille qui sont bouddhistes. Il y a aussi ça, et quand j'étais petite, j'étais déjà très inspirée par le bouddhisme. Aussi, à savoir que j'ai énormément voyagé, donc j'étais expatriée quand j'étais plus jeune avec mes parents. Donc, on n'a fait que voyager en fait autour du monde. On a été en Asie, on a été au Moyen-Orient. Donc, en fait, tous ces voyages-là m'ont aussi permis d'avoir une compréhension assez différente sur la philosophie spirituelle en général. Et mes parents sont très ouverts d'esprit, ils sont extrêmement spirituels, mes deux parents, très très spirituels. Donc déjà, d'avoir ça, tu vois, d'avoir grandi avec ça, ça fait que je pense que c'était déjà, tu vois, en fait, en moi, parce que malgré tout, on absorbe énormément ce que nos parents, évidemment, partagent et font, même si on peut être résistant. Au final, on absorbe quand même. Et puis, grandir avec toutes ces philosophies, et surtout la philosophie bouddhiste et d'autres religions, ont fait que en fait, j'ai eu tout de suite envie de me plonger dans la philosophie yogique et de comprendre beaucoup plus sur d'où ça vient, les anciennes scriptures, les livres anciens, enfin tout ce qui est... Tout ça me fascinait, en fait. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Et j'ai commencé même par étudier d'abord les écritures anciennes, et ensuite j'ai plongé dans un teacher training. Donc j'ai d'abord choisi de faire un 50 heures, c'était une pre-foundational teacher training sur les anciens scripts hindous et yogiques, et ensuite j'ai fait mon teacher training à 200 heures en Nyasa.
C'est vraiment fabuleux que tu aies pu évoluer dans un environnement comme ça. C'est vrai que avoir un environnement propulsant et puis surtout qui puisse t'emmener vers cette discipline et vers toute cette philosophie aussi, c'est hyper important, et c'est vraiment chouette que tu aies pu évoluer à travers ça. Moi, je trouve aussi que... Alors, c'est vrai que généralement, je trouve qu'il y a une discipline... J'ai l'impression que finalement, c'est elle qui te choisit. C'est pas tellement toi qui vas choisir de te mettre au yoga ou de te mettre à la danse ou à peu importe finalement la pratique. J'ai l'impression que j'ai presque envie de dire comme si c'était déjà écrit. Je te dis ça parce que moi, vraiment, je pense comme toi, il y a quelques années, on m'avait déjà dit « Mais Claire, tu devrais te mettre au yoga. » Et moi, j'étais là « Mais jamais de la vie, en fait. C'est trop lent, impossible, c'est trop lent, j'arrive pas. » Et puis pareil, problème, peur de la lenteur, pas envie de ressentir mon corps, mes émotions. Et j'aurais jamais cru. Et finalement, comme tu l'as très bien expliqué, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, on se met dans des yogas très dynamiques. On va faire du vinyasa, du Ashtanga. Très souvent, on a aussi un passif de sportive. Ça va être des anciennes danseuses, des anciennes personnes qui vont faire du fitness. Voilà. On a envie de garder cette rigueur et cette vitesse à laquelle on fait les choses. On ne prend pas forcément le temps d'être et de ressentir parce que ça nous fait peur. Alors qu'en fait, l'introspection se fait vraiment dans la lenteur. Et c'est là où on a des clés vraiment profondes. Et c'est vrai que moi, c'est un truc qui m'avait trigger avec tes vidéos. Je suis sur ton studio en ligne et au tout début, c'est vrai que ça m'avait interpellée parce que je me disais, mais même le vinyasa, il est lent quelque part par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire. Et c'était paradoxal parce que je me disais, ça fait en même temps du bien et en même temps, je suis mal à l'aise, mais j'adore. Et voilà, mais je trouve ça hyper, hyper chouette et vraiment merci pour ça, en tout cas. Tu parles du yoga comme un outil de guérison. À quel niveau cette pratique, elle est thérapeutique pour toi ?
Alors d'abord, elle me permet de me pardonner, de m'explorer sans jugement pour pouvoir aussi explorer les autres et le monde sans jugement. Elle m'a permis et me permet de comprendre mon anxiété aussi. C'est quelque chose avec lequel j'ai souffert beaucoup d'anxiété. J'ai fait beaucoup de panic attack aussi pendant l'adolescence. Et donc, au lieu d'essayer de changer, en fait, ce qui souvent est le cas, on a envie de changer, tu sais. On essaie de supprimer, en fait, d'effacer, mais sauf que ça marche jamais parce que si on essaie de faire ça, on met ça dans une boîte, tu sais. On la ferme, mais la boîte, elle s'ouvre à tout moment. Elle peut s'ouvrir à tout moment. Donc, en fait, ce que la pratique me permet de faire, c'est de comprendre et d'aider mon anxiété, de l'aider à travers la respiration lente, justement, la respiration lente, profonde et honnête. Et tu sais, en fait, d'ailleurs, dans mes cours, je sais pas si tu avais réalisé un petit peu dans le studio, mais souvent je dis respirer avec honnêteté.
Et c'est tellement difficile de respirer. Je crois qu'on est très peu de personnes à savoir respirer sur Terre. Et même moi, je prétends absolument pas savoir bien respirer parce que encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui me pose problème de me centrer sur ma respiration. C'est quelque chose qui me fait encore très peur. Mais oui, j'avais bien noté que tu disais ça. Dans quelle mesure le yoga t'a aussi aidé à te reconnecter à ton corps?
La pratique me permet d'en apprendre plus sur moi-même, en fait. Elle me permet d'en apprendre plus sur moi-même et le moi du moment, les anciennes versions, les expériences passées. En comprenant mon corps physique et en étudiant, on n'a pas parlé de tous les, évidemment, tout ce que j'ai étudié entre-temps, mais par exemple en étudiant la médecine chinoise traditionnelle aussi, ainsi que la philosophie yogique et bouddhiste, les fonctions de mes organes, de mes muscles, le fascia, etc. Et en approfondissant ma relation avec les trois corps, donc le corps physique, le corps subtil, émotionnel et le corps spirituel, tout ça m'a permis de réaliser qu'il y a bien plus que ce qu'on connaît dans le monde. Ce que je veux dire par là, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique. Dans quelle mesure ça m'a permis de me reconnecter avec mon corps, c'est de comprendre qu'en fait, il y a bien plus que ça. On est cet incroyable organisme, vraiment littéralement le corps, on est littéralement l'univers. On porte l'univers, on est l'univers, on vient de l'univers. Enfin, je veux dire, on porte toutes ces cellules. Enfin, je veux dire, c'est assez incroyable en fait quand on y pense vraiment, quand on y réfléchit. Et d'ailleurs, je suis passionnée et fascinée par ce côté, le côté spirituel et en même temps le côté science, scientifique. Et j'aime allier les deux. En général, c'est pour ça que j'aime la pratique somatique. Je sais qu'on va y venir dans un moment. Mais en fait, je trouve ça fascinant d'allier science et spiritualité. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris ça, où j'ai compris qu'il y a bien plus que juste que ce qu'on voit, c'est là où je me suis dit, mais en fait, pourquoi on s'arrête à ça, en fait? Pourquoi on s'arrête à ce qu'on voit? Il y a tellement plus. Et on est très souvent dans cette bulle, tu vois. C'est surtout ça aussi, l'anxiété. C'est qu'en fait, on a été conditionné à être juste dans notre bulle. Et on voit que ce qu'on a. On voit que ce qu'on a. Parfois même pas. Tu vois, on se met dans une espèce de mini boîte et on a du mal à en sortir, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à respirer. Alors qu'en fait, il y a tellement plus, je veux dire, déjà, rien que juste le monde en soi est tellement grand. Il y a tellement de choses, il y a tellement d'oxygène, il y a tellement de. C'est quand vraiment on comprend qu'on est bien plus, qu'il y a bien plus, que tout ça va au-delà de ce qu'on connaît dans ce monde matériel. De juste de savoir ça, ça m'a aidé en fait à me reconnecter à mon corps. Mon corps, c'est un vaisseau. C'est ce qui m'aide à tellement de choses, qui vont au-delà de tellement de choses. Je sais pas si c'est ce que je dis a du sens.
Je comprends.
C'est qu'on a ce corps-là. La question, c'est qu'est-ce qu'on choisit de faire avec?
C'est vrai que le yoga, pour moi, c'est un outil de connaissance de soi merveilleux. Et il y a quelque chose qui nous dépasse, hein, finalement, quand tu parles de plus grand que nous, ça nous dépasse, on peut même pas l'expliquer. Et c'est vrai que ça peut paraître parfois abstrait pour des personnes qui n'ont jamais fait de yoga, par exemple, de simplement conceptualiser des postures. Et quand on entend des personnes dire Ah, mais ça nous permet de nous connecter à nous-mêmes, des fois c'est un peu abstrait et on se dit Ok, mais comment? C'est juste des postures. Et c'est vrai que c'est compliqué à expliquer, de se dire à quel niveau ça peut, ça dépasse juste la pratique physique, en fait. Et c'est même, pour moi, la pratique physique, c'est à peine 20% de ce qu'est le yoga. Mais en tout cas, ouais, je pense que pour résumer, on pourrait dire que, effectivement, c'est quelque chose qui nous connecte à plus grand, à l'univers. J'aimerais qu'on parle aussi de, bah, justement, de ton studio en ligne que tu as créé, Body Poetry, dans lequel tu publies des cours de différents styles. Ça va du vinyasa au vinyasa yoga. Mais ce que j'aime beaucoup dans ces cours-là, c'est qu'il y a toujours cette idée de embodiment, d'incarnation du corps, je sais pas si on peut dire comme ça, avec les méditations, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où t'es venue l'idée de ce concept et ce qu'il représente pour toi ?
Alors déjà, le concept vient de mon histoire personnelle, de mes expériences personnelles et de mes expériences avec mon propre corps. En fait, cette envie de créer une harmonie avec mon corps, ce désir de créer de la poésie avec mon corps, et que ce soit à travers le mouvement, mais aussi à travers le mouvement de la respiration déjà, et ensuite le mouvement du corps, et le mouvement des questions, le mouvement du self-inquiry, tu vois, d'avoir toujours ces questionnements, ces émotions aussi qui bougent. Et donc c'est vraiment la source, enfin mes expériences en tout cas, et cette curiosité que j'ai, la source même de Body Poetry. Cette notion d'incarnation, d'embodiment, c'est vraiment que c'est exactement ce que tu disais en fait, juste avant. Que le yoga, la pratique physique, le yoga asana, c'est, tu vois, tu disais pour toi, c'est seulement 20%. Ce qui est très vrai. Et en fait, j'avais pas envie de recréer, je veux dire, je n'essaie absolument pas de juger quoi que ce soit. Je pense qu'on a tous besoin de certaines méthodes. On est tous très différents. J'avais juste pas envie de créer un autre studio de yoga qui sont très, 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 très souvent d'ailleurs sont très axés physique. Et c'est ok, c'est ok. Je pense qu'on voilà, on vit dans un monde où on a besoin d'un peu de tout. Mais j'avais vraiment envie de créer quelque chose d'authentique et qui venait vraiment de ma propre histoire. Je crois énormément en la vulnérabilité. Je pense que de partager à partir de son histoire, de sa propre histoire, permet de se connecter en fait et de se connecter de façon plus profonde avec d'autres. Et donc c'était vraiment ce que je voulais faire avec Body Poetry. C'était pas juste de donner des cours. Et c'est quelque chose que j'ai toujours fait, que je fais en réel, dans la vraie vie. Et c'est ce que j'ai voulu reproduire virtuellement aussi, ce qui est un challenge d'ailleurs, ce qui est assez challengeant. Mais j'avais envie de voilà, pas juste créer un vinyasa pour je sais pas, oui, il y a des peak poses, tu vois, mais pas juste être vinyasa class pour la roue, tu vois, pour arriver à la roue ou quelque chose comme ça. J'avais envie de partager cette notion d'incarnation. Et c'est pas juste ouvrir son corps, c'est pas ouvrir son cœur plutôt, et son corps d'ailleurs, ou ouvrir les hanches, ou il y a bien plus que ça derrière, c'est de pouvoir permettre aux émotions de bouger, de se poser des questions, d'être dans cette, vraiment de se plonger dans cette curiosité en fait. Parce que c'est assez facile de juste dérouler son tapis, être sur le tapis, faire son yoga pendant 20 minutes, 30 minutes, 60 minutes, on peut tous le faire. Mais ensuite, comment est-ce qu'on intègre ? Qu'est-ce qu'on intègre ? Comment on l'intègre ensuite dans la vie de tous les jours. Une fois qu'on ferme l'ordinateur, une fois qu'on ferme Body Poetry Studio, comment je reflète, comment j'utilise cette énergie-là, cette énergie que je viens de cultiver, comment est-ce que je l'intègre, comment est-ce que je l'applique ensuite dans la journée. Pour moi, c'est ça l'incarnation, c'est ça l'embodiment. C'est pas juste l'embodiment dans le mouvement. Il y a ça, ça commence par là, ça peut commencer par là. Ça peut commencer aussi par, on écoute une de mes méditations, une de mes respirations. Et ensuite mouvement, mais ensuite comment est-ce que j'incarne ça dans la façon dont j'interagis avec les autres, la façon dont je communique avec moi-même, dans la façon dont je partage avec les autres, la façon dont je mange, la façon dont je prépare ma nourriture. C'est ça l'embodiment.
Et c'est marrant parce que je savais pas du tout que tu donnais aussi tes cours dans la vraie vie. Et du coup, en quoi tes cours ils se différencient par rapport au studio ?
Juste pour dire, j'ai commencé comme ça. Hein. J'ai commencé dans la vraie vie quand même. Le studio est venu bien après, des années après. Comment ça se différencie ? La différence, c'est qu'il y a cette présence. Donc quand tu as mes cours, ben, je suis là, je suis présente et je peux tenir l'espace. C'est ce que j'essaie de faire virtuellement aussi, c'est de tenir l'espace. C'est pour ça que par exemple le studio est très intime. Donc c'est noir, c'est assez intime parce que j'avais envie de créer un espace safe. Et la même chose dans la vraie vie, évidemment, ça dépend aussi de l'endroit. Mais j'essaie de créer un espace safe. J'aime aussi, en général, genre, tu me verras très peu sur mon tapis quand j'enseigne. J'enseigne beaucoup plus avec ma voix, avec les mots, car j'aime quand les gens puissent écouter et ensuite puissent réadapter avec leur propre corps au lieu d'essayer de copier ou de faire exactement la même chose. Parce qu'on se compare très souvent. Je pense que ça, c'est une grosse différence par rapport aux étudiants en ligne. J'aime aussi énormément d'assister aussi, très souvent, ou surtout quand j'enseigne un workshop ou un atelier. En général, j'aime avoir cette connexion avec l'autre. Évidemment, toujours, c'est très subtil. La façon dont j'ajuste est très, très subtile. Je suis juste là pour juste un petit soutien. En général, ce que je dis, c'est que je suis comme une fée. Je viens, je donne juste un peu de poussière magique.
C'est joliment dit, en tout cas. On repasse sur ton studio, dans lequel tu proposes aussi des cours de somatic bodywork, donc de pratique somatique. Je pense que beaucoup de personnes ne connaissent pas forcément ce terme. Qu'est-ce qu'il signifie et c'est quoi le but recherché derrière ?
Déjà, le mot somatique, soma, ça vient c'est grec, et ça veut dire dans le corps, littéralement. C'est vraiment ce qu'est la pratique somatique, c'est être dans le corps et de sentir, d'apprendre à sentir et ressentir, et ensuite de laisser le mouvement être une extension de ce ressenti. Comme si le corps pouvait traduire ce ressenti à travers les mouvements. C'est comme ça que je vois la pratique somatique. Et la pratique somatique, c'est vraiment, clairement et brièvement aussi, c'est ressentir, c'est le ressenti. C'est ce qui fait que la pratique est somatique. C'est d'un ressenti de pouvoir s'adapter et réadapter. C'est pour ça que généralement, donc je ne sais pas si tu avais pris un de mes cours de yin, mais j'aime, donc c'est vraiment pas le yin traditionnel, j'aime incorporer les micro-mouvements. Donc on réajuste, on essaie de voir ce qui est bloqué, comment on peut respirer à travers cet espace qui est bloqué, où est la résistance, et ensuite de pouvoir réadapter. Et donc au lieu de, par exemple, très souvent en yoga, on reste très rigide, tu vois, que ce soit même dans l'ashtanga aussi, ou dans le yin très traditionnel. C'est assez rigide, c'est « ok, reste et respire ». Alors que quand j'incorpore donc, la pratique somatique, c'est de pouvoir réadapter. Parce qu'on est tous différents, on a tous des corps différents, on a tous des expériences différentes et des histoires différentes. Donc en fait, tous nos corps, anatomiquement, on est tous différents. Donc en fait, la pratique somatique nous permet de réadapter et de s'adapter, de savoir ce qui fait du bien et ce qui paraît un peu... Je suis pas sûre que ce soit vraiment bon pour moi.
J'ai une question pour toi qui m'intéressait de savoir par rapport à aujourd'hui, là où tu en es sur ton chemin et les pratiques que tu as dans ton quotidien. Comment tu définirais le rapport que tu as à ton corps aujourd'hui ?
Le rapport que j'ai à mon corps aujourd'hui est relativement sain. Beaucoup, 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 beaucoup plus sain que quand j'étais une adolescente. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que c'est un voyage qui n'en finit pas, pour être très honnête. C'est un voyage de guérison qui n'en finit pas. Comme tout, c'est une pratique constante. Et ce que j'aime aussi, parce que mon corps m'apporte des challenges quand j'ai eu 30 ans. C'est là où j'ai vu tellement de différences aussi. Et il y a eu aussi beaucoup de changements. Le corps t'apporte constamment du changement et des challenges. Et un peu des rappels aussi, et des signaux. Et là, genre, ouais, salut. C'est encore moi, je t'apporte un nouveau challenge. Et c'est quelque chose que j'ai appris à aimer en fait, à intégrer dans ma pratique, dans la compréhension de soi, la compréhension de moi. Ma relation aujourd'hui, c'est, je dirais que j'apprends en fait, tous les jours. Mon corps m'apprend des choses tous les jours.
Et est-ce que tu aimes ton corps ?
Oui. Tu sais quoi ? Je le dis avec beaucoup de fierté, parce que ça n'a pas été... Je pense que même il y a encore quelques années, rien qu'il y a juste 2 ans, je pense que je t'aurais dit, je sais pas. Je suis sur le chemin, mais je suis pas sûre. Aujourd'hui, oui, je l'aime. Je le vois comme tellement sacré, comme tellement mon allié, comme ma meilleure amie.
Alors j'imagine que ta vie a beaucoup changé depuis que tu es passée de la danse au yoga. Aujourd'hui, à quoi ressemble ta routine, une de tes journées ?
C'est assez rigolo parce que je peux être très disciplinée comme je peux être et je suis très très intuitive. J'ai vraiment des deux en moi. Mes journées, en général, je commence toujours très disciplinée. Et ensuite, ça peut vraiment varier. Donc, ce que j'appelle discipliner, c'est que je commence mes journées très très tôt. Je me réveille à 5 heures. Et ça commence toujours avec mes kriyas, donc mes méthodes de purification. Toujours, 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 c'est quelque chose que j'ai gardé en moi, que ça fait des années et des années que je fais. Et qui vraiment me permettent. J'ai du mal à. Quand je ne les fais pas, quand je ne fais pas mes kriyas, je sens énormément la différence. Mais en même temps, je me permets de m'adapter. Mais donc, kriyas, j'aime ma routine. Kriyas, en général, j'aime beaucoup en ce moment, j'aime beaucoup chanter, m'exprimer avec ma voix. Ou par exemple, jouer un instrument. J'apprends le ukulélé en ce moment. Avant ça, pendant des années, je jouais l'harmonium. Et puis ensuite, ma pratique physique. Donc évidemment, et la respiration, les kriyas qui ont été avant. Je refais une respiration. En général, ça dépend de mon anxiété. Si je sens que je me réveille de l'anxiété, ma respiration va être beaucoup plus longue, beaucoup plus lente. Je vais avoir une respiration qui va durer beaucoup plus de temps. Un exercice plutôt qui va durer plus de temps. Ou alors un peu plus short. Mais c'est à partir de ce moment-là où généralement, je m'adapte. Et ensuite, ma pratique physique, ça peut être 5 minutes, comme ça peut être 20 minutes, comme ça peut être 1 heure. Là, pour ça, mes mouvements sont très, très intuitifs, comme je pense que tu peux l'imaginer. C'est pour ça que j'aime faire mes kriyas d'abord, de me purifier d'abord. C'est très important pour moi de me purifier. Aussi, je suis assez traditionnelle dans le sens où je viens toujours sur mon tapis propre. Donc, je me rince toujours avant de venir sur mon tapis. Donc j'ai un peu ces petites choses qui sont très traditionnelles, c'est assez rigolo. Bien que ma pratique ensuite physique, ma pratique d'asana n'est pas si traditionnelle que ça. Donc j'aime bien allier un peu les deux. Ça c'est mes matinées. Et ensuite, comme j'ai dit, c'est ensuite comment j'incarne ce que je ressens. Donc, par exemple, il y a des journées où j'aurais envie d'écrire. Il y a d'autres journées où j'ai pas du tout envie d'écrire. On voit ça vachement sur Instagram, comment c'est vous venez comme ci, comme ça. Mais en fait, mais vraiment, laissez-vous respirer en fait. J'ai envie de dire à tout le monde, laissez-vous changer. On change tous les jours, c'est pas grave. Vous n'avez pas journalé ou vous n'avez pas ouvert votre journal et si vous n'avez pas fait la même méditation tous les jours. Vraiment, je pense que la vie, c'est de s'adapter. Donc ma routine, elle consiste à m'adapter et d'apprendre à m'adapter dans les environnements que je suis, surtout que je voyage énormément. De garder mes rituels, mes petits rituels qui me permettent de respirer avec honnêteté. Par exemple, là, au Guatemala, ce que je fais, c'est que je vais toujours au lac. Tous les matins, je sais que je vais voir le lac, je vais voir l'eau. Quand j'habite au bord de l'Atlantique, pareil, je vais voir l'eau. Ça, l'eau, c'est très important pour moi. Mes routines changent, mais mes rituels ne changent pas.
En parlant de respiration, est-ce que tu as un exercice de respiration à conseiller aux personnes qui souffrent d'anxiété ?
Déjà, il est hyper important d'avoir un espace où si vous êtes dans un environnement qui est très occupé ou très busy, c'est ok de s'éloigner un peu pendant un moment. Et je dis ça parce que vraiment, j'ai vraiment, vraiment eu beaucoup d'attaques, de panic attaques. Et dans des environnements qui étaient très busy parfois. Et juste de prendre un moment sur le côté, c'est déjà une première étape. Ensuite, de savoir ce ground. Donc, ce que j'aime, c'est de sentir mes pieds, de me dire que c'est ok, je suis là, en sécurité. Pour l'instant, je suis là, tout va bien. Et ensuite, j'aime imaginer, je ferme mes yeux et j'imagine que la respiration vient de la terre, à travers mes jambes, à travers mes hanches, jusque mon cœur, jusque la couronne de ma tête. Et j'expire. Tout complètement vers le bas, donc jusque vers le bas. Parfois j'ai un peu du mal avec mon français, il est super nul. Et donc je respire pour atteindre le sol. Et donc cette respiration, elle est très simple, mais j'inspire genre très 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 lentement et j'expire très 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 lentement. Et je permets à mon cœur, j'imagine que mon cœur sauf que j'ai de l'espace pour respirer. C'est une méthode très simple. Ça peut être juste 3 respirations. Ensuite, rouvrir les yeux une fois qu'on se sent assez en sécurité.
Merci beaucoup. Tu nous as parlé rapidement de ton rapport à la féminité. C'est vrai que tu guides, il me semble, une fois par mois, si je ne dis pas d'erreur, des cercles de femmes. Comment t'es venue cette idée? Et puis, comment ça se passe, un cercle de femmes en ta compagnie?
Oui, ça fait très longtemps maintenant que j'organise des cercles de femmes. Donc à la base, qui a commencé dans la vraie vie, j'avais commencé à Paris, je suis partie vivre à Amsterdam, donc j'avais continué à Amsterdam. Ensuite, j'ai pris mes cercles de femmes à Lisbonne. Et ensuite, ils ont commencé à être virtuels quand j'ai commencé à voyager un peu plus. Donc, les cercles de femmes, c'est parce que je participais déjà beaucoup à des cercles de femmes. Je me souviens aussi, j'ai eu un souvenir qui m'a énormément marqué, pardon. C'est ma mère d'ailleurs qui m'a emmenée, ma mère spirituelle, qui m'a emmenée à ce cercle chamanique une fois. On avait bu du cacao et c'était pas encore à tendance. À l'époque, c'était pas du tout tendance, j'étais très jeune encore. Elle m'avait emmenée à ce cercle chamanique avec, du coup, c'était une chamane qui arrivait, je crois qu'elle était venue du Pérou, je sais plus d'où. Elle nous avait servi du cacao et moi qui pensais que c'était même une drogue à l'époque, je savais pas dans quoi je m'étais mise. Et il y avait le tambour, enfin, il y avait tout ça. Et je me demandais où j'étais au début. J'étais là, je sais pas ce que je fais ici, je sais pas pourquoi je suis ici avec ma mère, mais je suis là. Et ça va durer genre 4 heures. Je suis là et je peux plus m'échapper. Et puis j'avais ça. Et en fait, je me souviens que ça m'avait énormément marquée. Donc, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça m'avait énormément marquée. Il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées. Il y a eu une grosse transformation intérieure qui s'était passée. Et puis, on avait eu un espace où on avait partagé. Et en fait, c'était hyper inconfortable au début. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici, en fait? Et en fait, c'est plus tard où j'ai compris l'impact que ça avait eu. Et j'ai compris en fait l'importance de se réunir et l'importance de se réunir entre femmes. Et quand j'ai plongé énormément, j'ai beaucoup beaucoup étudié le féminin sacré. C'est une grosse partie de mon histoire et de mon histoire personnelle, de mes traumas, etc., surtout. Et en fait, de plonger dans mon propre utérus, d'essayer de le comprendre, ça a été un gros voyage. Et en fait, en comprenant, en apprenant plus sur mon propre utérus, j'ai pu partager en fait ces connaissances, partager mes expériences. Et c'est en organisant, en fait, en partageant, en ayant des femmes, de pouvoir en fait réunir des femmes qui a fait partie de mon voyage de guérison et qui m'a permis de guérir également. En apprenant tellement, je me dis, mais il faut que je partage ça, je ne peux pas juste garder ça pour moi. C'était vraiment cette envie de partager ça. Et donc voilà, c'est comme ça que l'idée est venue. Et j'aime avoir des cercles de femmes, et les cercles de femmes sont très différents à chaque fois. Donc il y a des thèmes, il y a toujours des thèmes, je me base sur des thèmes, et j'aime les faire de façon différente. Donc ça, à chaque fois qu'on participe à un cercle de femmes, c'est toujours très différent. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai une communauté assez... c'est beaucoup beaucoup de régulière parce qu'à chaque fois c'est différent, à chaque fois on fait des rituels différents aussi, on a des questions différentes, la façon de partager est différente, parfois j'incorpore même du yin ou parfois j'incorpore d'autres choses. Il y a eu des moments où j'incorporais beaucoup de danse quand je les faisais en vrai, donc il y a toujours des choses différentes. Mais ce qui est hyper important, et c'est ce que je me répète, je l'ai dit avant, de créer un espace qui est safe, où on se sent en sécurité, et surtout en tant que femme. Et c'est de créer un espace sans jugement. Et c'est aussi parce que je travaille dans le monde de la mode qui aussi m'a menée à créer des cercles de femmes, parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup de compétitions entre femmes.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui... Et je pense que ça entraîne aussi une certaine forme de comparaison malsaine. Mais le fait que beaucoup de femmes souffrent notamment de variations hormonales, qui fait que, à la fin, on ne se sent pas forcément bien dans son corps. On ne connaît pas ses cycles, on ne sait pas comment les appréhender, que ce soit en termes de symptômes physiques qu'au niveau psychologique. Beaucoup de femmes expérimentent, des troubles digestifs, des variations d'appétit, des mood swings, des changements d'humeur aussi. Au fil de leur cycle, et c'est quelque part normal, simplement on ne sait pas et on n'a pas appris à les gérer. Quel conseil tu donnerais à une femme qui cherche à mieux vivre justement ses cycles menstruels, à mieux les comprendre, à peut-être moins les subir? Et du coup, quel est ton rapport, toi, à cette dimension-là du féminin sacré?
Je dirais d'abord qu'il faut savoir s'écouter. Il faut savoir s'écouter, et je pense que c'est la première étape, ce qui est généralement la plus compliquée. Il faut savoir s'écouter, être curieuse, prendre une note, écrire, sentir. Poser des questions aussi, vraiment autoriser, je dirais à toutes celles qui écoutent, autorisez-vous à poser des questions à être curieuse, à... c'est ok aussi de s'ouvrir et de poser des questions et même si elles sont ridicules, on n'apprend rien sur nos cycles à l'école. Très souvent, nos parents nous apprennent disent pas grand chose non plus parce que pareil, ils ont les mêmes. Donc autorisez-vous à rechercher, à faire des recherches aussi. Et j'ai envie de dire que nous sommes toutes très différentes. Et certaines ont certaines méthodes. Donc j'ai vraiment envie de dire aussi, même si vous recherchez et que vous voyez des. C'est très inspirant, il y a des méthodes très inspirantes. Il y a aussi des choses qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Mais ne vous attachez pas trop à ça non plus. D'ailleurs pour tout, même pour, tu vois, je parlais des routines avant, c'est la même chose. C'est qu'on a toutes des méthodes très différentes et on a toutes nos propres histoires. On a toutes nos propres expériences et on est toutes très différentes et on marche de façon, on fonctionne de façon très différente. Certaines d'entre nous ont beaucoup de douleurs, par exemple, ou certaines d'entre nous vont avoir des règles beaucoup plus abondantes. D'autres ont des règles une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, une fois tous les 2 ans. On est toutes très différentes. Donc c'est pour ça qu'il est très important de savoir s'écouter soi et de savoir ensuite poser des questions, on peut être curieuse. Et c'est pour ça que je pense que le plus gros conseil que j'aimerais, c'est de prendre notes et de comprendre les 4 phases aussi qu'on a. Parce que beaucoup de femmes ne sont même pas conscientes de leurs 4 phases. La menstruation, la phase folliculaire, l'ovulation et la phase lutéale. Ça déjà, de comprendre ces 4 phases-là, c'est, je pense, essentiel. Et de savoir qu'on change aussi tous les mois et qu'on change, on est des êtres cycliques. Donc on change dans tous les cas. Et de aussi comprendre que l'utérus est un espace sacré. Et je vais vous dire, on vient tous d'un utérus. de prendre conscience à quel point cet espace est sacré. Et c'est un espace qui est bien souvent incompris, car il est très inconfortable en fait. C'est très inconfortable pour nous les femmes de plonger dedans et de le sentir. Parce qu'on a été conditionnés d'une façon qui nous fait rejeter cet espace et qui a été dominé surtout par les hommes pendant des siècles et qui nous a fait perdre le contrôle de nos propres corps, de perdre le contrôle de nos propres utérus. Même pendant des siècles, c'était que les hommes qui donnaient naissance. Enfin, je veux dire, même rien que ça. Tu vois, juste plongez dans votre espace sacré, comprenez-le et honorez-le aussi. Comprendre qu'on a ces phases de purification et de changement et qu'en fait on est tout changement. Et ça fait tellement du bien de savoir tout ça parce qu'on a tellement de mood swings et on change tellement. Et de comprendre ça, de comprendre qu'en fait on est changement et qu'on change toutes les semaines, tout le temps. Mais ah ok, mais en fait ok, je comprends mieux et je me comprends mieux.
Merci beaucoup pour ce partage. On ne pourrait pas aborder le corps sans parler de nutrition, forcément. Comment est-ce que tu considères ton propre rapport à l'alimentation ? Est-ce qu'il a toujours été facile ?
Non, mon rapport à la nutrition n'a pas toujours été simple. Je suis passée par plusieurs phases et j'ai expérimenté l'anorexie pendant plusieurs années. J'ai directement été baignée dans un monde très strict. Dès le plus jeune âge, la danse classique et puis plus tard la mode. J'étais complètement détachée de mon corps et en fait je ne comprenais pas la valeur et le sacré, d'ailleurs, de l'alimentation. Qui aujourd'hui, avec la pratique et la philosophie que j'applique et que j'intègre et que j'incarne, je comprends à quel point ça me nourrit, mais de tellement de façons. Tu vois, il y a quelques minutes, pardon, je parlais des 3 corps. Et en fait, de comprendre à quel point l'alimentation, ça vient directement de la terre. On est nature. Ça fait partie, c'est quelque chose qui fait partie de la vie, de l'alimentation, et de pouvoir s'alimenter bien, c'est ce qui nourrit le corps, c'est ce qui nourrit le cœur, c'est ce qui nourrit le cerveau, c'est ce qui nourrit notre communication avec soi-même, et ensuite qui nous permet aussi de communiquer avec plus de grâce avec les autres. Et c'est pas juste s'alimenter pour s'alimenter, c'est bien plus que ça. Comprenant ça, j'ai guéri mon rapport avec la nourriture.
C'est incroyable, je trouve ça impressionnant en fait ce parcours et j'espère que ça donnera aussi de l'espoir à des personnes qui peut-être écoutent ce podcast et qui souffrent de troubles alimentaires. Donc merci beaucoup pour ton honnêteté, ta sincérité dans ce partage-là. Je sais que c'est pas forcément toujours évident d'en parler, mais c'est preuve aussi que des pratiques comme le yoga et puis tout ce cheminement en termes d'état d'esprit apporte énormément et moi de toute façon je suis convaincue que on ne guérit pas son rapport au corps et à l'alimentation. Déjà, on ne guérit pas son rapport à l'alimentation sans guérir son rapport au corps. Et par ce biais-là, le cheminement psycho-émotionnel est juste indispensable. Pour moi, c'est pas avec l'alimentation qu'on se sort de là, quoi. Donc merci beaucoup. Pour en revenir au yoga, quelles sont tes aspirations, que ce soit du côté professionnel ou personnel pour la suite?
J'irai déjà continuer à partager la poésie du corps avec le monde. C'est continuer à créer des espaces et des récipients, comme on dit en anglais, des containers, qui permettent à ceux, celles et ceux qui sont appelés à guérir de façon authentique, de se sentir safe, donc en sécurité, et de s'ouvrir, vraiment de s'ouvrir petit à petit. Ça part un peu cliché, mais de s'épanouir, je dirais, mais vraiment de s'ouvrir une respiration à la fois. Bien sûr qu'il y a bien plus, c'est ce que je dirais. Ça reste assez vague, parce que j'ai plein de projets, j'ai plein de choses qui arrivent. Je suis en train de développer aussi un label. Donc, plein de petites surprises. Pas juste la pratique, pas juste le mouvement, c'est l'incarnation et de pouvoir le partager dans plusieurs choses. On se souvient de skincare, de soins de la peau. Il y a aussi d'autres choses qui arrivent, mais c'est voilà, pas juste... Ce que j'aimerais, c'est voilà, partager cette poésie du corps, body poetry, d'amour inconditionnel, pouvoir incarner cet amour inconditionnel dans tous les aspects de la vie. Voilà.
Ok. Je sais qu'on a déjà abordé beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de conseils aussi tu as donné, mais si tu pouvais n'en garder que trois, quels seraient les trois conseils que tu donnerais à une femme qui souhaite se réconcilier avec son corps?
Premier conseil, écoute-toi ou apprends à écouter. Donc, curiosité, sois curieuse. Deuxièmement, pardonne-toi, apprends à te pardonner. Troisième conseil, s'honorer. Honorer son être, honorer son corps. Comment tu t'honores? Comment tu te respectes?
Merci. On est bientôt arrivé à la fin de l'épisode. Je peux te dire d'ores et déjà que tu as battu le record du podcast le plus long avec moi. Mais c'est hyper intéressant et j'ai pas envie d'arrêter. Pour terminer l'épisode, j'ai envie de te poser une petite série de questions auxquelles tu réponds de manière très spontanée. Est-ce que tu es prête?
Oui.
Ma première question, c'est qu'est-ce que représente le corps pour toi?
La vie, la mort, les cycles, notre histoire, nos expériences et nos ancêtres.
Et qu'est-ce que tu aimerais dire à ton corps aujourd'hui?
Pardon, je t'écoute.
Quelle est la plus grande qualité que tu as su développer selon toi et qui t'a permis d'en être là où tu en es aujourd'hui?
Je dirais ma curiosité, mon ouverture d'esprit et ma soif d'apprendre. Je sais que c'était juste une qualité, mais je pense que ça fait juste un tout.
Si tu peux me dire un fait qui est vrai sur toi.
J'incarne ce que je partage et j'enseigne seulement ce que je sais.
Et un fait qui est faux, une idée reçue qu'on aurait de toi?
Alors c'est assez rigolo parce que j'en parlais avec une amie hier. Les gens pensent souvent que parce que j'ai été dans le monde de la mode et danseuse, ce qui fait que j'aime le visuel. J'aime les arts, la sensualité. Et du coup, les gens pensent que je suis extrêmement organisée, que tout paraît parfait, que ma vie est absolument parfaite. Alors qu'en réalité, je suis très naturelle et transparente. Et je peux être totalement désorganisée aussi. Je peux être partout en même temps parce que j'aime faire énormément de choses.
Ok. Quelle est ta boisson préférée?
Normalement, je vais en dire deux parce que j'en ai une que je viens de découvrir au Guatemala littéralement la semaine dernière. Donc je suis obligée de dire normalement la boisson classique que je choisis n'importe où. C'est mon go-to, cappuccino avec lait d'amande. Mais ici au Guatemala, quelque chose que j'ai découvert, c'est un double shot d'espresso avec du cacao cérémonial avec de la crème de coco.
Waouh, je connaissais pas.
Super.
Jamais goûté. Ça donne trop envie.
Très bon. Oui, voilà.
Est-ce que tu as une citation ou un mantra qui t'inspire et qui t'accompagne au quotidien?
C'est un mantra bouddhiste. Je le dis en anglais, je vais le traduire en français. Understanding is the very foundation of love. En français, comprendre est la fondation même de l'amour.
Pour finir, ma dernière question. Est-ce que tu souhaites partager une ressource? Ça peut être un livre, un film, un podcast, ce que tu veux.
Ce qui me vient en tête tout de suite, premier livre, The Body Keeps the Score, de Bessel van der Kolk.
Merci beaucoup Luna pour notre échange. Ça a été un épisode un petit peu long, mais vraiment j'ai été ravie de pouvoir en découvrir plus sur toi. Bien évidemment, je mettrai le lien de ton compte Instagram dans les notes de l'épisode. Je mettrai aussi le lien de ton studio en ligne, Body Poetry, pour les personnes qui seraient intéressées à le rejoindre. En tout cas, moi je le recommande à 3000%. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour ton temps aussi, le temps que tu as pris pour venir parler avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci à toi, merci beaucoup, ça a été super chouette. Merci de m'avoir invitée, merci Claire.
J'espère que cette nouvelle conversation avec Luna vous a plu. Si vous souhaitez rejoindre son studio en ligne, Body Poetry, sachez que Luna m'a fait grâce d'un code promo réservé à ma communauté sur le podcast qui vous permet d'obtenir 20% sur votre premier abonnement que vous optiez pour la formule mensuelle ou annuelle. Pour ça, il vous suffit d'entrer le code CLAIRE lors de votre inscription pour obtenir la remise. Merci à vous pour votre écoute. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous aura inspiré et motivé à prendre soin de votre santé au quotidien. Comme d'habitude, si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à lui laisser un avis et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure façon de me soutenir et de m'encourager à produire de nouveaux épisodes. En attendant de se retrouver mercredi prochain à 7h, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous.